Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonne nouvelle, Kif Taras, le podcast de Rokaya Diallo et Grace Lee qui saute à pieds joints dans les questions raciales, reprend pour une cinquième saison chez Pseudo Radio. Abonnez-vous au nouveau flux du podcast à retrouver en description pour écouter les nouveaux épisodes. On en profite pour vous faire découvrir un de nos coups de cœur à Binge Audio, le documentaire Réparation de Adélie Pojman-Pontet et Iris Ouedraogo. C'est une série en 7 épisodes, produite par nos consoeurs et confrères de Paradiso Media, initialement diffusée dans le podcast L'Histoire en 2022. Dans cette excellente série, les deux journalistes se penchent sur les traces du passé colonial et esclavagiste de l'Occident à travers un procès historique où des descendantes et des descendants d'esclaves ont demandé justice auprès de l'État français. Si vous aimez Kif Taras, vous allez adorer Réparation. Bonne écoute!
Fort-de-France, Martinique, 11 octobre 2021. Nous sommes toujours au procès des réparations de l'esclavage. Maître Robéry, une avocate de Guyane, est en pleine plaidoirie.
Nous avons tous une généalogie qui est tronquée, qui débute par un acte d'affranchissement. Mais à l'heure où tout le monde se vante de remonter sa généalogie, où des sites internet se multiplient pour rechercher l'origine de son nom, cela nous est définitivement impossible. Elle est tronquée. Et nous ne pourrons jamais la relier avec nos ancêtres déportés.
La plupart des descendants d'esclavisés ont un point commun. Ils ne peuvent pas retrouver la trace de leurs ancêtres. À l'époque, il y a des registres dans les bateaux à l'arrivée dans les colonies, au moment de l'achat ou de la revente. Il existe aussi des registres paroissiaux. Mais le problème, c'est que ces documents sont difficiles d'accès. D'abord, parce qu'au moment de l'abolition, beaucoup d'entre eux ont été détruits ou perdus, et ceux qui restent sont disséminés.
Quand vous avez un bateau qui arrive avec 400 captifs, ils peuvent être venus de tous les territoires de l'Afrique.
L'oubli est une gangrène. L'oubli imposé n'est pas une façon de dépasser.
Il y a une injonction à l'oubli, mais qui, encore une fois, est vraiment une injonction politique à l'oubli.
La conséquence de cette amnésie organisée, c'est que l'esclavage devient un sujet tabou dans la société.
Pour être citoyen et pour entrer dans l'égalité, il faut oublier.
Myriam Cotias.
C'est vraiment la condition. Donc on n'en parle pas explicitement. Et il y a des stratégies pour faire oublier son histoire familiale. Pendant très longtemps, on n'a pas du tout parlé d'esclavage. Enfin, jusque dans les années, je pense, 90, on ne parlait pas d'esclavage dans les familles. Ou on en parlait en utilisant des métaphores, mais jamais directement.
Cet oubli organisé a duré 150 ans.
Le grand tournant, c'est 98.
1998. Chirac est président, Jospin Premier ministre. Le pays se prépare à célébrer les 150 ans de l'abolition.
La France fête le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage due à l'homme politique français Victor Schœlcher.
Le gouvernement prévoit des célébrations en grande pompe. Ce qu'on célèbre, c'est Victor Schœlcher et la République libératrice.
Dans les départements d'outre-mer, comme la Guadeloupe ou la Martinique, certains regrettent tout de même qu'à cette occasion, on évoque simplement ce souvenir et pas les révoltes qui ont précédé cette décision.
Mais dans ces célébrations, aucune place pour les victimes de l'esclavage. Cet oubli va heurter des milliers d'Antillais.
La Marseillaise doit-elle être triste ou joyeuse? Ce que le président du Sénat est venu honorer ici à Houille Est-ce la mémoire des esclaves déportés pendant 3 siècles vers nos colonies? Ou ne faut-il retenir que le jour glorieux de l'abolition de l'esclavage?
Certains décident que ces célébrations ne peuvent pas se faire sans eux. Ils organisent alors leur propre événement en marge des commémorations officielles.
La marche est digne et silencieuse. Dans le cortège, quelques vedettes et puis des milliers d'anonymes. Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, ils sont là pour dire qu'ils sont tous des enfants d'esclaves.
Cette marche, c'est l'illustration d'un changement radical dans la société française qui va se concrétiser 3 ans plus tard par une loi historique.
Le sujet dont nous nous sommes emparés,
la loi Taubira de 2001,
n'est pas un objet froid d'étude.
C'est la première loi au monde à reconnaître que la traite et l'esclavage des Africains sont des crimes contre l'humanité.
A-t-on jamais considéré dans ses justes dimensions le traumatisme consécutif à un tel héritage?
Dans cet épisode, on va vous raconter ce tournant de la fin du XXe siècle.
Si les blessures et les ravages causés restent encore aussi vivaces aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas officiellement été fait droit à la requête légitime de reconnaissance, de justice et de réparation due.
Retrouver la mémoire, c'est la première des réparations. Je suis Iris Ouedraogo.
Et je suis Adélie Pojman-Pontet. Bienvenue dans Réparation, épisode 4, Réparer l'oubli.
Bonjour, vous allez bien? Iris, du coup.
Marie-Françoise Tégiani.
Au téléphone.
Oui.
Et Adélie, ma collègue.
Adélie, enchantée.
Voilà. Bon, on va. Je vais vous faire rentrer à la maison.
Allez,
allons-y. Voilà.
Allons-y.
C'est ouvert.
Marie-Françoise Tégiani a 77 ans. Elle a les cheveux courts, crépus et gris, des lunettes rouges qui encadrent des yeux pétillants. Il y a 25 ans, le 23 mai 1998, elle marchait aux côtés d'autres descendants d'esclaves dans les rues de Paris. Et ce moment l'a menée à militer pour que la loi Taubira voie le jour. Elle nous raconte cette histoire chez elle, un après-midi d'automne, dans son appartement en banlieue parisienne.
Un café maintenant ?
Dans son salon, il y a une grande bibliothèque avec des livres d'Aimé Césaire, de Frantz Fanon, des objets d'art africain.
Je m'appelle Marie-France Mérin, c'est mon nom de jeune fille. Mon femme, c'est Astégiani.
Le grand-père de Marie-France est martiniquais. Pendant la guerre de 14-18, il vient combattre en France et il finit gravement blessé.
Et ma grand-mère, qui était de la... Je ne sais pas si existait la Croix-Rouge à l'époque, j'en sais rien ce que c'était. Elle l'a si soignée, qu'elle l'a si bien soignée, qu'elle a fait mon père. Voilà.
Le père de Marie-France grandit en Normandie, où il se marie. La famille s'installe en banlieue parisienne, à Nogent-sur-Marne.
C'était quand même très très difficile, étant gamine, de vivre ce métissage. Parce que quand moi, je ne me voyais pas noire du tout. Et les autres me voyaient, mais moi, je ne me voyais pas. Et...
Est-ce que vous avez des souvenirs précis de moments où ça a été compliqué en tant que petite fille métisse? Vous avez des souvenirs?
À l'école, oui. Non, mais là, c'était... On ne m'appelait pas Marie-France, on m'appelait la petite négresse. Moi, on me tirait sur les nattes.
Aborder ces sujets-là avec vos parents?
Ah, j'ai essayé. C'était impossible.
La seule personne avec qui Marie-France peut parler de ses origines, c'est avec son grand-père martiniquais.
J'étais la seule qui l'écoutait. Et comme j'étais en admiration devant lui, que pour moi, c'était... je me retrouvais, quelque part. Avec mon grand-père, j'avais une identité. Je mangeais comme lui le matin, parce qu'il mangeait son sandwich avec la morue, comme il faisait aux Antilles, quoi. Il me racontait, donc moi je faisais pareil. Et il prenait son rhum, et il me disait, tu le dis pas, je l'ai jamais dit à personne, mais le matin c'était pour réchauffer son cœur.
Dans les années 70, son grand-père décède, Marie-France a 27 ans.
J'ai perdu mes repères. Parce que j'ai plus personne, parce que là, je ne pouvais pas en parler. À un moment donné, j'ai dit, bon, là, il faut que je m'investisse dans quelque chose. Et il commençait en 77 à avoir des associations d'Antillais.
À l'époque, des milliers de Guadeloupéens, Martiniquais et Réunionnais arrivent dans l'Hexagone dans le cadre d'un programme du gouvernement qui s'appelle le BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Cette émigration organisée a deux buts, diminuer le chômage dans les trois îles et apporter de la main-d'œuvre en France hexagonale.
J'ai vécu ça, les Antillais qui sont arrivés en masse, étaient tous dans la fonction publique, la poste, la RATP, surtout dans les hôpitaux, principalement dans les hôpitaux. Chez Renault, toutes les usines, hein, alors là, en veux-tu, en voilà.
Les membres de ces associations d'Antillais se retrouvent les week-ends pour oublier le mal du pays. On y organise des soirées festives, on mange des plats traditionnels, on danse. Mais pour Marie-France, il manque quelque chose. On ne parle pas assez de politique, d'histoire. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que d'autres Antillais installés en France se posent les mêmes questions qu'elle. Dans ces petits groupes, il y a Emmanuel Gordien.
Oui, alors me présenter, c'est toujours une histoire pour moi. Parce que moi, je me considère comme un petit-fils de Paul-Louis.
Il est né en Guadeloupe à la fin des années 50, fait ses études de médecine à Paris, puis il rentre travailler dans son île. Il revient en France avec sa femme et ses enfants au milieu des années 90.
Et puis, le mythe du retour va s'estomper.
Il se retrouve alors assimilé au groupe de tous les travailleurs venus d'outre-mer. En Guadeloupe, il est Guadeloupéen. À Paris, il est désormais Antillais.
En revenant à Paris, très précisément en 1995, je rencontre mes amis historiques et on discute du pays. Et en fait, c'est ça qu'on découvre en France. Qui sommes-nous ?
Le petit groupe d'amis cherche un terme qui les définit et qui les unit.
Vous êtes des Afro-Français, vous êtes des Caribéens, vous êtes des Afro-Caribéens, vous êtes... Bon, bref, on a tout étudié. Et quand on a fini notre tour, donc des essais qui ont été publiés, on s'est dit, bon, alors, quelle est, à votre avis, la description qui vous paraît la plus adaptée à nous ? La réponse unanime a fusé, aucune. Terrible quand même. Et on a fait un tour de table. Alors, toi, t'es qui ? Toi, t'es qui ? Toi, t'es qui ? Toi, t'es qui ? Comment vous définissez ? Il a dit, écoute, moi, je suis l'arrière-petit-fils de Papa Blaise.
Papa Blaise, c'est le mythe fondateur de la famille Gordien.
Ce sont toutes mes racines, c'est ce que papa m'a appris. Je sais très précisément où il était. Je sais qu'il y avait une maison qui avait une seule fenêtre, qui était en bois. Le toit était en chaume. Il dormait par terre. Alors, je lui raconte tout ça. Et puis, une collègue qui est psychologue du groupe me dit, Papa Blaise, c'est ton grand-père ? Je dis non, Papa Blaise, c'est le premier esclave de la famille. Il me dit, comment ça, vous l'appelez Papa Blaise ? Je dis, ouais. Ah bon, c'est bizarre, personne aux Antilles n'appelle les esclaves Papa Blaise. Et ça avait frappé, à l'époque, ça avait choqué tout le monde. Mais... Et donc, personne ne se réclame de l'esclave. Donc, c'est ça qui choquait, en fait, c'est qu'on puisse dire ça.
Papa Blaise, cette appellation avait choqué tout le petit groupe, car à l'époque, l'esclavage, c'est encore un sujet tabou. Autour de cette table, personne ne peut remonter aussi loin dans son arbre généalogique. On ne connaît pas les noms des ancêtres esclaves de sa famille. Et on ne les appelle certainement pas par un petit nom affectueux. Emmanuel Gordien fait office d'exception.
En ce qui me concerne, c'est une histoire absolument singulière. En fait, mon père, il m'a toujours tout raconté. Une chance inouïe pour moi, c'est que papa connaissait les deux derniers fils du déporté africain.
Et là, le groupe d'amis a une révélation. C'est ça leur point commun à tous. Nous sommes descendants d'esclaves. Nous sommes les enfants de ces déportés africains. Se dire descendant d'esclaves, c'est mettre au jour un tabou énorme, un oubli bien enraciné.
Et cette histoire familiale, c'est l'histoire de l'esclavage sans que je le sache.
La France se prépare à commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Ces commémorations célèbrent le nouveau chapitre de l'histoire de France qui s'écrit à partir de l'abolition. Le slogan officiel choisi par le gouvernement, c'est « Tous nés en 1848 ».
Tous nés en 1848, Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, j'ai compris qu'en fait, c'est des républicains, profondément républicains, qui veulent célébrer le mythe républicain, que quand on est républicain, on abolit l'esclavage. Quand on me dit tous nés en 48, on ne tue pas Blaise. Donc ça ne m'intéresse pas. Et figurez-vous que fin 97, ce petit groupe dont je vous parlais se pose et se dit, on ne peut pas ne rien faire.
Cette prise de conscience qu'Emmanuel Gordien et ses amis ont eue ensemble prend soudain une portée politique.
Et là, nous, on formule un truc que je trouve génial. C'est vraiment une création collective. On dit, mais voilà, vous savez ce qu'on va faire? Nous allons faire une marche silencieuse de la République à la nation. On a choisi le trajet. Pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial.
Dans les commémorations officielles, rien n'avait été prévu pour honorer les victimes de l'esclavage.
C'est la première fois qu'on met l'esclave au centre de la question. C'est la première fois qu'on dit on va penser à eux. Et c'est la première fois qu'on dit que ce sont des parents. Et de façon collective, on le dit.
Emmanuel Gordien et ses amis rencontrent des associations antillaises dans toute la France. Ils leur donnent rendez-vous le 23 mai 1998 pour cette grande marche.
Et puis, quelques jours avant la manifestation, les renseignements généraux viennent me voir. J'étais l'un des responsables organisationnels. Et quand on me demande combien de personnes vous pensez à ça, je dis, écoutez, s'il y a 1000 à 1500 personnes, on sera comblés. On sera comblés.
Le jour J, Emmanuel Gordien arrive sur la place de la République à Paris.
On m'attend, on n'arrête pas de m'appeler, mais le problème c'est que j'ai mis une demi-heure pour traverser la place. Et les mêmes renseignements généraux qui m'avaient dit oui, ils pourraient 1000 personnes, ils nous ont dit il y avait 40 000 personnes. 40 000 personnes, marche silencieuse, pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. C'est pas normal.
Le slogan, c'était « On n'est pas né en 1848 ».
C'est pas possible.
Et là, tout le monde a pris conscience que ça a été violent. D'un coup, vous apprenez que vos ancêtres, ils sont des descendants d'esclaves et que vos parents, ils veulent surtout pas en parler. Et que là, d'un coup, dans un mouvement général, on en parle, il n'y a pas eu de bagarre, rien. Très, très, très noble.
Cette marche et cette affirmation, nous sommes tous descendants d'esclaves, c'est révolutionnaire. Dans la tête des manifestants, mais aussi dans le débat public.
Voilà.
Ok, très bien.
Est-ce que tout simplement, je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, alors je suis Magali Besson, je suis professeure de philosophie politique à l'université Panthéon-Sorbonne.
Magali Besson est l'autrice du livre « Faire justice de l'irréparable, esclavage colonial et responsabilité contemporaine ».
Un des grands enjeux, je crois, de la question des réparations, c'est justement d'attirer notre attention, pas seulement sur les faits du passé, mais sur le récit qu'on fait aujourd'hui de ce passé auquel on décide, on choisit d'être particulièrement rattaché. C'est-à-dire que ça pose la question de la généalogie et pas simplement la question de l'histoire. C'est-à-dire nous, aujourd'hui, temps présent, à quel fil généalogique on a envie de se rattacher et quels sont les événements du passé dont on décide qu'ils vont être signifiants pour nous aujourd'hui.
La marche de 98 permet à des milliers de personnes de prendre conscience que l'esclavage fait partie de l'histoire de France. Quelques mois après la marche, une proposition de loi arrive à l'Assemblée nationale. C'est la future loi Taubira de 2001. La loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
La loi Taubira, elle apparaît aussi comme, comme de la réparation.
Myriam Cotias, historienne.
Parce que c'est une reconnaissance. La loi Taubira, elle a cette fonction-là.
Cette loi, c'est un grand tournant dans l'histoire des réparations.
Si la loi Taubira émerge à ce moment-là en France, c'est aussi parce que le contexte y est propice. À travers le monde entier, la question des réparations ressurgit. C'est ce que nous explique Nikki Friis, chercheuse spécialiste des réparations à l'Université d'Édimbourg en Écosse.
Donc il y avait beaucoup de pression internationale aussi bien que nationale, à faire quelque chose.
En Afrique, dès le début des années 90, on dresse le bilan de plusieurs siècles d'exploitation par les Occidentaux. Exploitation des ressources, des sols et des populations, à commencer par la déportation et l'esclavage des Africains dans les colonies. À Lagos, au Nigeria, des représentants de pays africains et caribéens se réunissent pour entamer une réflexion sur les réparations.
Donc, la première conférence internationale sur les réparations à Lagos, en décembre 1990. Et ça est très important parce que ça a donné lieu à la déclaration d'Abuja, qui a donné la base pour les réparations internationales.
Et en 1999, à Accra, au Ghana, se tient la commission de vérité, réparation et rapatriement du monde africain. Elle demande à l'Occident de payer plus de 700 milliards de dollars pour compenser l'asservissement des Africains et la colonisation du continent. En France, les choses remuent aussi. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion, plusieurs associations se demandent que sont exactement ces anciennes colonies devenues des départements français. Et dans ces discussions, les militants parlent beaucoup du fait que la France a décidé d'invisibiliser l'histoire de l'esclavage. Dans plusieurs départements d'outre-mer, l'idée d'une loi qui reconnaisse que l'esclavage est un crime contre l'humanité commence à émerger. À La Réunion, par exemple, avec Huguette Bello, une députée du Parti communiste réunionnais, mais aussi en Martinique.
Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un groupe autour de l'association Devoir de mémoire de la Martinique. Il y a cette idée qu'on va faire une loi.
À l'Université des Antilles, des juristes s'intéressent aussi à la question, comme par exemple Emmanuel Joss.
C'est lui qui a fait toutes les recherches juridiques pour montrer qu'il était possible de caractériser l'esclavage comme crime contre l'humanité.
Avec d'autres juristes, ils cherchent quelqu'un pour porter le texte à l'Assemblée.
Et ils sont allés voir différents députés des Outre-mer. Et en fait, c'est Christiane Taubira qui dit « Ok, on y va ».
À l'époque, Christiane Taubira est députée de Guyane. Elle a 47 ans. Avec des militants, elle s'attelle alors à l'écriture de cette loi. Elle propose un premier texte en 1999 avec deux idées principales. La première, il faut reconnaître que l'esclavage colonial et la traite sont des crimes contre l'humanité. Et la deuxième, il faut sortir cette période historique de l'oubli et du tabou. À l'époque, la grande majorité des Français ignorent tout de ces 400 ans d'histoire de France. Il faut donc l'enseigner à l'école et encourager les chercheurs à s'y intéresser. La proposition de loi contient 7 articles, et le 5e porte sur les réparations.
Il est instauré un comité de personnalités qualifiées chargé de déterminer le préjudice subi et d'examiner les conditions de réparation dues au titre de ce crime. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret en Conseil d'État.
Dès la commission des lois, cet article 5 fait débat. La commission des lois, c'est le groupe de députés qui affine le texte avant qu'il soit débattu à l'Assemblée. Pourtant, Christiane Taubira a pris soin de rester vague. L'article parle seulement de former un comité pour évaluer le préjudice de l'esclavage et proposer des solutions.
Christiane Taubira défend la question des réparations en disant « Non, mais je ne veux pas dire réparation au sens de indemnisation financière à des descendants d'esclaves attestés comme tels et déclarés comme des ayants droit, mais je veux dire ce que j'appelle des réparations morales. » Et là, elle donne toute une liste.
Elle évoque par exemple l'enseignement, la recherche, la création de musées, tout ce qui pourrait faire sortir de l'oubli l'histoire de l'esclavage. Elle évoque aussi des choses plus concrètes, comme le partage des terres ou les inégalités économiques. Mais malgré ces précisions, le terme ne passe toujours pas. Les députés craignent qu'en maintenant le mot « réparation » dans la loi, cela puisse légitimer de futures demandes. L'esclavage est reconnu comme un crime contre l'humanité, mais la question des réparations, elle, est évacuée. Tout comme le terme qui disparaît donc complètement de la proposition de loi.
La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Mme Christiane Taubira Delannon et plusieurs de ses collègues tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. La parole est à Mme Christiane Taubira Delannon, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles.
Le 18 février 1999, Christiane Taubira s'apprête à défendre sa proposition de loi.
Monsieur le Président,
elle monte à la tribune de l'Assemblée nationale.
Madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues, cette inscription dans la loi, cette parole forte, sans ambiguïté, cette parole officielle et durable, constitue une réparation symbolique, la première et sans doute la plus puissante de toutes. Mais elle induit une réparation politique en prenant en considération les fondements inégalitaires des sociétés d'outre-mer liés à l'esclavage et notamment aux indemnisations qui ont suivi l'abolition en faveur des colons. Elle suppose également une réparation morale qui propulse en pleine lumière la chaîne de refus qui a été tissée par ceux qui ont résisté en Afrique, par les marrons qui ont conduit les formes de résistance dans toutes les colonies, par les villageois et les ouvriers français, par le combat politique et l'action des philosophes et des abolitionnistes. Elle suppose une réparation culturelle, notamment par la réhabilitation des lieux de mémoire.
Fallait voir Christiane Taubira à l'Assemblée. Hein. C'était quelque chose.
Le mot réparation a beau avoir disparu de la proposition de loi, il continue de flotter dans les débats.
Esclavagiste, la France le fut. Pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France l'est. Pays de la reconnaissance et du devoir de réparation, elle doit le devenir.
Pour ma part, je dis, puisque j'ai commencé à prendre quelques libertés, donc je dis que je suis très attachée au terme de réparation, parce que nous avons pu le préciser qu'en plus c'est un concept en construction. Mais compte tenu des interrogations qu'il provoque à chaque fois, il est évident donc qu'il peut permettre la confusion. Et pour toutes ces raisons, la Commission n'a donc pas retenu cet amendement.
L'avis du gouvernement.
Le gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, le comité qui est institué par l'article 4 doit mener une action sur le plan de l'œuvre de mémoire. Et dans ce domaine, la question de l'indemnisation, de la réparation, pose des problèmes très complexes. Donc c'est dans une perspective collective pour la création de lieux et d'actions de mémoire que se situe le texte que nous votons aujourd'hui.
Sans mention des réparations, la proposition de loi fait consensus dans l'hémicycle.
Tout ce qui pourrait concerner l'établissement d'un préjudice et donc les réparations éventuellement associées à ce préjudice est éliminé de la loi pour en revenir sur une question de mémoire et de commémoration.
La majorité des députés souhaitent que l'histoire de l'esclavage sorte de l'oubli.
Certains se demandent encore aujourd'hui à quoi cela sert-il. Descendant d'esclaves, je leur répondrai. C'est la manière la plus forte de cicatriser des plaies encore trop fragiles de ceux dont les ancêtres furent esclaves. Il est temps que la France assume pleinement et sans la cacher cette page tragique de son histoire, qu'elle reconnaisse cette tragédie qu'elle a orchestrée à l'instar d'autres pays européens. Il faut que cesse la politique de l'oubli. L'oubli a été imposé, mais non consenti. Aussi, si pour certains qui refusent aujourd'hui la repentance historique, l'histoire c'est du passé, je rappelle que la mémoire collective est le ciment de l'identité des peuples et des départements d'outre-mer largement empreinte dans notre culture. Le racisme, encore très présent dans notre société, n'hésitons pas à le dire, puise ses racines dans l'ignorance du passé. La traite négrière a légitimé le racisme.
Où sont les destins des esclaves dans les livres d'histoire qu'étudient nos enfants ? Destin fait de souffrance, d'humiliation, de négation de leurs droits élémentaires, de leur culture, de leurs simples sentiments, puisqu'ils étaient traités comme des meubles, comme des marchandises, comme des animaux domestiques. Ils étaient 25 000 à manifester le 23 mai dernier à l'appel du comité pour la mémoire des esclaves. Aujourd'hui, nous n'octroyons pas cette reconnaissance, nous répondons à leur exigence de devoir de mémoire.
Mais malgré tout, le sujet reste sensible. Pour certains députés de droite, à la veille de l'an 2000, ce n'est plus le moment de parler de l'esclavage, c'est du passé. Comme par exemple pour Robert Pendreau, élu du RPR.
Nous sommes dans un pays où là, et dans une assemblée où toutes les opinions peuvent s'exprimer et où on n'est pas obligé, il n'y a pas un service obligatoire de repentance dans ce monde. Chacun peut avoir ses idées telle qu'elle sort, moi, je n'ai pas l'intention au cours de ce débat de me repentir ce qu'ont pu faire éventuellement des autres ancêtres.
Monsieur Pendreau.
Je ne veux pas que mes ancêtres rougissent de moi et je n'ai rien à faire de tel ou tel
repentir. Monsieur Pendreau.
Et c'est là que l'on commence à entendre un mot qui va se diffuser de plus en plus dans le débat public par la suite, la repentance. La première à utiliser ce mot, c'est Christiane Taubira, elle-même dans son discours inaugural.
Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude.
Dès les premières phrases, elle anticipe les critiques de ses opposants.
Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice.
Robert Pendreau est l'un des rares députés à se prononcer contre le texte. On déclare qu'un crime a été commis, mais on se garde de désigner des coupables ou des responsables. On se garde aussi de présenter des excuses. Et on enlève aux victimes la possibilité de demander justice et d'obtenir réparation. Finalement, après 2 ans d'écriture et de débat, la loi Taubira est adoptée à l'unanimité au Sénat le 10 mai 2001. La France devient tout de même le premier pays à déclarer que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et c'est le seul pays anciennement esclavagiste à l'avoir fait. Pour les militants comme Marie-France Astegiani, ça reste un très grand progrès.
Vous vous souvenez où vous étiez quand la loi a été votée?
Moi, j'étais à l'Assemblée.
Vous étiez dans l'Assemblée?
Oui, j'étais à l'Assemblée. Mais quand je suis sorti, c'était plus la même. C'est drôle, hein? Vous avez l'impression d'une naissance. Oui, d'une naissance. J'ai encore les odeurs, les ressentis, comment j'étais comme un bien droite, fier. Fier. Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais sauvé le monde. Je me disais, j'ai honoré mon grand-père, quoi. Il a fallu que j'aille sur sa tombe, je l'ai lui dire.
Sortir de l'oubli la grande histoire permet aussi de révéler les petites. En levant le tabou, la loi Taubira a permis à de nombreuses personnes de retrouver la mémoire et de partir à la recherche de leurs ancêtres esclavisés. Comme Nadia Judith. Elle est guadeloupéenne et vit à Vieux Habitants.
Mon interrogation, c'était quel lien je pouvais faire avec les gens qui avaient vécu avant et que grand-père disait qu'ils ont vécu pendant l'esclavage. Qui étaient ces gens-là? C'était vraiment la question que je me posais, hein. Je parlais en ces termes-là. Je posais des questions sur les grands-parents de mes grands-parents. Je disais, mes grands-mères, qui était ta grand-mère? Qui était ton grand-père?
Nadia a grandi avec des questions sans réponse sur son héritage familial. Elle aussi a marché dans les rues de Paris le 23 mai 1998. Comme Emmanuel Gordien, Nadia a besoin de retrouver son papa Blaise à elle. Sa mère lui donne quelques noms, rien de très précis, mais c'est une bonne base pour tenter de les retrouver dans les registres des archives nationales. Les noms de toutes les personnes affranchies en 1848 y sont inscrits. Nadia s'y rend avec une amie, elle parcourt les dossiers un à un, et puis elle trouve.
Vous savez, quand on est aux archives, c'est très silencieux. Et moi, j'avais envie de crier, de danser, de sauter partout. Et ça, c'était contenu. Et quand je suis sortie, il y avait un café et puis une église. J'ai dit à ma copine, on peut aller à l'église. Alors qu'elle n'allait pas du œuvre, elle n'a pas les églises. Mais elle m'a accompagnée, mon amie. On est restée là. Je suis restée silencieusement, remerciée. J'étais contente. J'étais entre le rire et les pleurs.
Elle réussit à remonter le fil de son arbre généalogique. Les points d'interrogation de son enfance deviennent des noms et des prénoms avec des dates de naissance et des dates de mariage.
Mon grand-père s'appelle Roger Imani, sa mère c'est Justine Imani, la mère de Justine Imani.
Parmi tous ces nouveaux noms, deux résonnent particulièrement pour Nadia. Célestine et Justine, deux femmes qui ont vécu l'esclavage. Elle imagine leur vie, leur visage, elle décide de les sculpter pour leur rendre hommage.
Alors, ben, vous entendez déjà le coq, on est en pleine nature, un peu à la campagne. Là, il y a des bananiers. Ici, il y a ben, des plants d'ananas, il y a des cocotiers, enfin voilà, pas de bois.
Ces deux sculptures trônent aujourd'hui dans le jardin de la maison où elle a grandi en Guadeloupe.
Je vous présente ma sculpture Mantine, qui a sacré caractère à sa tête. Hein, on rigole pas, attention. Je suis bienveillante, mais les enfants, on rigole pas, on fait pas de bêtises. Elle est dans son jardin, avec son coutelard. Elle est coquette, hein, vous avez vu, elle a son collier. Et sa couronne. Et ici, c'est mon Juju. J'ai pas bien réussi son bras, j'aime pas. Mais c'est pas grave, c'est sa tête que j'aime. Elle est plutôt du genre... je monte la garde, je suis sereine, mais méfiez-vous quand même. Hein. Alors, elle est très élégante et elle a un peu cassé ses chaînes, là. Vous voyez, elle a ses colliers, là, que je touche, elle les a... Elle en a plus besoin, elle les garde en tant que bijoux, mais symboliquement, mais en tout cas, c'est bien cassé. Et elle est entre le temps passé et le temps présent.
Retrouver son récit familial, après 150 ans de silence, pouvoir le transmettre à ses enfants, c'est la première des réparations.
Voilà, je voulais montrer à mes enfants qu'on doit le savoir, qu'on doit transmettre, mais en aucun cas, ils doivent oublier.
Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5.
C'était Réparation, une production Paradiso Média sur une idée originale d'Iris Ouedraogo et Adélie Pojman-Ponte. Enquête, reportage, écriture et voix, Iris Ouedraogo et Adélie Pojman-Ponte. Réalisation, Chloé Cobuta et Louise Calderon. Relecture et conseil éditorial, Gabriel Ramin. Consultante historique, Myriam Cotias. Musique originale, Célia Wa. Comédien voix, Sarah Vildeuil, Jérémy Dubard, Aloïs Vanderf et Jules Darmanin. Enregistrement, Marin Grisot. Mixage, Louise Calderon. Assistante de production, Émy Faconnier. Directrice de production, Oriane Bettoni. Producteur délégué, Louis Daboussi, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre. Ce documentaire a reçu le soutien du ministère de la Culture aux auteurs et autrices de podcasts.